Et le problème est d'autant plus difficile quand on a affaire à des néo-titulaires professeurs des écoles, où là on a probablement aussi d'autres difficultés qui sont des difficultés d'ordre disciplinaire. La semaine dernière, je vous disais, je suis allée voir une jeune PE2 en stage filé sur une leçon de géographie. Visiblement, les savoirs nécessaires à l'enseignement de la géographie étaient un peu défaillants, parce que une centration, je dirais, presque totale sur d'autres disciplines, notamment les mathématiques et le français. Donc beaucoup de travail, une préparation certainement qui lui a demandé beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. Sauf que, bon, par exemple, elle intervient sur la notion de plaine et de plateau. Et bon, elle fait en sorte quand même d'éviter la fatidique question, parce qu'au moment où elle avance, elle se rend compte qu'elle ne maîtrise pas exactement la différence qu'il y a entre plaine et plateau, et elle fait en sorte d'éviter la question des élèves. Donc, y compris à ne pas répondre aux questions que les élèves ont lui posées dans ce sens. Donc, ce double apprentissage, il est effectivement dans un premier temps celui des élèves et des disciplines, mais également, comme on le voit, hein, c'est-à-dire celui du métier dans lequel il s'efforce d'entrer. Ça, c'est un premier apprentissage. La deuxième articulation, c'est effectivement dans le fait de faire la classe et de l'apprendre. Donc, on a fait un travail avec Fred pendant presque 2 ans sur un collège où on avait essayé de finalement, ce qui ressortait du travail avec les enseignants, c'était des moments qui leur paraissaient, dans le cadre de la gestion de l'hétérogénéité, hein, c'était des moments qui leur paraissaient finalement très, très porteurs de difficultés. Et ces moments-là, c'était par exemple l'entrée en classe. L'entrée en classe, bon, c'était le premier mouvement et le premier moment qui leur paraissait extrêmement difficile, et pas uniquement chez les néo-titulaires. Bon, il se trouve que là, chez Guillemette, c'est un moment particulièrement difficile parce que effectivement, les élèves entrent de manière très désordonnée, très bruyante, sans reconnaître son autorité. Hein. Mais bon, ça avait donné lieu justement au moment où on travaillait avec l'ensemble des collègues alors pour le coup là, pas des controverses, mais des consensus, où finalement, y compris les collègues qui étaient là depuis un certain nombre d'années, disaient que effectivement eux-mêmes étaient confrontés à ce genre de difficultés d'entrer dans des élèves dans la classe, et puis finalement comment travailler sur les transitions, passage de la récréation à la mise en activité des élèves dans la classe. Donc ça, c'était le premier moment, le premier mouvement. Le deuxième mouvement, il leur semblait que c'était la mise au travail des élèves. Et finalement, en regardant les films et en se regardant travailler, il leur semblait que ce qui était beaucoup plus difficile que l'entrée des élèves en activité, c'était le maintien des élèves dans l'activité. Parce que il leur semblait que pour ceux qui avaient un petit peu d'expérience, finalement, bon an, mal an, ils arrivaient plus ou moins à intéresser les élèves, à les motiver et à les mettre au travail. Ce qui leur paraissait beaucoup plus risqué et difficile, c'était de les y maintenir. Et puis le grand étonnement au fur et à mesure que l'on travaillait avec cette équipe, c'est finalement, on y est tombé tout à fait par hasard, ça a été le quatrième moment, ça a été la sortie des élèves de la classe. Et là, ils se sont rendus compte de manière collective, hein, que finalement l'ensemble du travail qu'ils donnaient à leurs élèves était de manière systématique, pas majoritairement, mais systématiquement après que la cloche a sonné. Donc la cloche sonne et selon l'expérience et selon les enseignants, ça peut aller de 3 à 7, 8 minutes où on donne le travail à faire. Donc ce qui bien sûr désorganise en plus la vie de l'établissement, puisqu'on se retrouve avec des élèves qui sont dans les couloirs alors qu'ils devraient se retrouver dans un autre cours, ou alors avec des arrivées en récréation bien entendu échelonnées puisque l'enseignant a très largement débordé. Plus, eh bien, on avait vu toute la désacralisation, hein, de finalement de ce travail qui devenait un travail hors temps scolaire, hein. Enfin, disons sur un temps qui n'était pas tout à fait hors scolaire, mais qui n'était plus tout à fait scolaire, puisque non plus borné entre les deux temps de la cloche, hein, mais sur une espèce de temps qu'il n'arrivait pas à définir et qui, d'une certaine manière, donnait à penser à l'élève que c'était pas si important que ça, puisque c'était hors de ce temps. Et d'autant plus confirmé, vous l'avez vu par Élodie, hein, et par bon nombre d'élèves, qui se disent, d'autant que ce travail n'est pas systématiquement vérifié, donc, c'est la possibilité éventuellement de ne pas le faire. Ce qui a beaucoup questionné les enseignants avec lesquels on a travaillé, hein, dans le sens où ils se demandaient si finalement, en ZEP, ils n'avaient pas un peu cette attitude, hein, dans la représentation de leur métier, s'ils n'avaient pas un peu cette attitude qui consistait à autoriser implicitement, ou malgré eux, je dirais, le fait que les élèves ne travaillent pas ailleurs qu'en classe. Et que pour eux, finalement, c'était pas si important que ça, que ce travail-là, qui est nécessaire et qui est quand même un des vecteurs de la réussite, soit finalement laissé de côté. Hein. Donc ça a quand même beaucoup, beaucoup interrogé, bien sûr, l'équipe avec laquelle on a travaillé. Alors, on a travaillé avec donc Guillemette, qui est en histoire, et puis avec Frédéric, qui est en français. C'est une auto-confrontation croisée là, et on a travaillé avec eux sur en général deux niveaux de classe, la sixième et la troisième, ce qui permettait aussi dans une certaine mesure de aussi entre autres hein, de réfléchir à ce fameux suivi de cohorte et voir un petit peu comment on pouvait penser les ruptures et les continuités entre le primaire et le collège, hein, entre le CM2 et la 6e, et éventuellement entre la 3e et la 2e, puisqu'il y avait aussi dans notre travail une énorme réflexion autour de l'orientation des élèves, et notamment des élèves de ZEP, comment permettre que ces orientations ne soient pas des orientations par défaut, mais des orientations choisies. Donc l'idée aussi de cumuler sur ce travail. Alors, je dirais qu'ici, on avait sélectionné peut-être plusieurs ingrédients de l'activité, plusieurs organisateurs de l'activité et du développement du métier. Alors, je ne sais pas comment on s'organise. Oui, voilà. Donc, pour situer le contexte, je vais prendre peut-être deux exemples. Pour situer le contexte, donc, je rappelle très brièvement le dispositif. Donc, on a filmé en plusieurs reprises et pendant finalement de longues semaines le travail de Guillemette. On fait pareil, bien sûr, avec Frédéric en français, mais avec d'autres collègues en maths, en EPS, en SVT, en italien. Et ensuite, ce que l'on fait, c'est qu'il y a donc une auto-confrontation qui se fait à chaud ou plus tard avec le collègue concerné. Et ensuite, on passe un temps, là c'est ce que vous allez voir. Donc, pendant un temps, on regarde donc le travail de Guillemette et où elles vont réagir toutes les deux. Et ensuite, on regarde le travail de Frédéric où là, ça offre l'occasion effectivement de nouveau de réagir entre Guillemette et Frédéric. Donc, sur deux disciplines différentes, mais sur la même classe. Hein, puisque nous avons aussi fait un travail de suivi des élèves pendant ces presque deux années de cette classe de 4e puis de 3e et particulièrement de 6 élèves. Donc, des élèves qu'on connaissait assez bien. Alors, elle commence, c'est le cas du premier élément, mais que je vais laisser de côté, puisque là, on est plutôt dans le disciplinaire, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Hein. Elle démarre en disant, ça, c'est l'archétype du cours qui démarre mal. Et là, elle va embrayer directement sur quelque chose de disciplinaire. Et elle se rend compte que son cours, elle a mis trop de temps à mettre ses élèves en activité, qu'elle a donné une fiche, que les élèves ne savent pas du tout ce que ça veut dire, comment il faut qu'ils travaillent, qu'il y a beaucoup trop de choses à lire, beaucoup trop de choses à faire, qu'elle n'a pas donné de rigueur au niveau du temps. Donc, elle se rend compte en auto-confrontation simple, qu'elle a mis des élèves au travail sans contrainte temporelle. Et du coup, les élèves ne savent pas très bien de combien ils disposent pour effectuer cette tâche. Donc, il y a des flottements. Hein. Donc, ça, elle a déjà dit ça en autoconfrontation. Et donc, elle revient là-dessus avec Frédéric en disant, voilà, l'archétype du cours qui démarre mal. Si j'avais à refaire ce cours, je ne m'y prendrais pas comme ça. Bon. Et au bout de cette séance-là, de cet extrait-là, elle dit... j'en arrive à dire des choses fausses, mais je me sens tellement empêchée avec ces élèves dont j'ai le sentiment qu'ils ne comprennent pas ce que je raconte, je me rends compte que je suis en train de dire des choses fausses. Et donc, effectivement, Frédéric reprendra par ici, hein, en disant que elle-même, en français, elle a fait le deuil de l'exactitude des termes, donc une exactitude sacrifiée, et voilà. Et finalement, elle reste sur un vocabulaire très flou, dont elle sait que ce vocabulaire n'est pas tout à fait exact, qui n'est pas exactement le vocabulaire de la discipline, Hein. Donc un peu effectivement ce que tu disais, c'est-à-dire qu'elle se rend bien compte que ce ne sont pas tout à fait les termes savants attendus de la discipline, mais volontairement, eh bien, elle assume cette posture. Enfin, elle l'assume, elle essaie de l'assumer parce qu'elle est dans un rapport, notamment par rapport à la grammaire, elle dit un rapport très douloureux hein, entre justement la leçon de grammaire et ses élèves. Le deuil du programme achevé, bon, qui va dans le même sens que ce que je disais. Et puis peut-être on peut regarder cette partie, je dicte encore, et puis peut-être la question de l'aide individualisée. Donc je vous propose ces deux petits extraits. Alors. Oui. Voilà. Excusez-moi, j'ai pas entendu. Alors, l'autoconfrontation simple, donc, c'est l'enseignant qui va être confronté à l'image, aux images de son film et où on va plutôt en travail avec le chercheur permettre de faire ressortir un petit peu les implicites du métier, c'est-à-dire finalement la justification de ce qu'elle fait, de pourquoi elle le fait, mais aussi tout ce que disait Frédéric, c'est-à-dire ce qu'elle fait, ce que ça lui coûte de le faire, ce qu'elle ne fait pas. Ce qu'elle voudrait faire, mais que finalement elle se donne l'illusion de faire et qu'elle fait pas exactement bien. Donc là, on a quelque chose qui est de l'ordre, je dirais, du métier, de tous ces implicites. Dans l'autoconfrontation croisée, ce genre d'ingrédients et d'organisateurs de son activité ont relativement émergé. Et donc là, tu vas voir, elle revient plusieurs fois en disant, mais oui, je m'étais rendu compte au moment où je m'étais rendu compte que je faisais ceci. Et là, on va voir qu'il y a une activité de nouveau sur l'activité, c'est qu'elle dit, je m'étais rendu compte, mais je ne m'étais pas rendu compte à ce point. Et donc, ce deuxième passage-là avec sa collègue, avec Frédéric, là, voilà, donc là, on va le voir. Hein. Là, sur le même film de Guillemette, il y a en fait Guillemette, hein, qui a déjà vu son travail, et Frédéric. Et ensuite, on passe au travail de Frédéric. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que là, il y a justement une espèce de controverse que le chercheur tente de faire émerger entre les uns et les autres, et où on va parler règles de métier. Hein. Alors, ce qui est assez, passionnant dans ce type de dispositif, c'est que bon, on a beaucoup d'exemples qui vont dans ce sens. C'est que très souvent, on va voir là, Frédéric dit des choses parce qu'elle est en train de regarder le film de Guillemette. Elle dit des choses sur la manière de Guillemette de faire classe et de prendre la classe. Et très souvent, quand on regarde ensuite le film de Frédéric, il s'avère que elle n'a pas exactement dit au moment de l'autoconfrontation ce qu'elle fait, ou en tous les cas, ce qu'elle a dit qu'elle faisait ne se déroule pas de visu exactement comme elle a dit qu'elle le faisait. Ce qui, bien entendu, porte aussi à discussion sur le métier. Ça va? C'est à peu près...
Alors,
je vais essayer de revenir parce que j'ai peut-être un peu coupé un peu trop et le début est tout à fait intéressant.
C'est Guillemette.
Guillemette, donc c'est elle. Hop là, pardon, voilà. Donc, alors Guillemette est néo-titulaire. Elle est néo-titulaire, donc c'est une fausse première année. C'est une fausse première année parce qu'en fait, elle a démarré l'année d'avant et elle est partie immédiatement en congé maternité. Donc, c'est une fausse première année. Et Frédéric, et je crois là, à ce moment-là, elle est en quatrième ou cinquième année. Hein. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant avec ce groupe d'enseignants et surtout avec Frédéric, c'est qu'on a là un suivi et un travail sur 3 années. Donc c'est ce qui me permettait tout à l'heure de vous dire comment au fur et à mesure hein, elle reprend la main sur son activité et comment elle passe sur d'autres exigences.
Thank you.
peut-être là, si je ne sais pas si vous entendez, je coupe juste pour que donc elle est en train de regarder donc le film et vous voyez dans son expression quoi je dicte encore. Ce n'est pas des éléments qui étaient sortis au moment de l'autoconfrontation. Ce qui était davantage sorti, c'était la difficulté qu'elle a à prendre la classe et avec cette fameuse prescription qu'elle se donne, hein, c'est une règle d'or chez Guillemette, c'est qu'elle ne donnera pas les consignes et qu'elle ne parlera pas tant qu'elle n'obtient pas le silence absolu. Donc elle est capable, là, dans ses premiers mois, de faire sortir les élèves de la classe, de les faire entrer, de les faire ressortir, de les maintenir debout devant la chaise, jusqu'à ce qu'elle obtienne le silence absolu. Donc je vous passe les dérapages, puisque surtout lorsque la caméra est placée en fond de la salle, eh bien bon, les chaises grippent, le cartable tombe, ça rigole, et finalement, au bout du compte, elle le dira d'ailleurs dans une autoconfrontation qu'on a transcrite, je sais pas si on aura l'occasion de vous la montrer, elle le dit, mais j'abdique parce que je sens que je perds la main et que je perds ma classe. Donc elle va dire aux élèves finalement asseyez-vous. Et c'est ce qui était ressorti de manière assez douloureuse d'ailleurs sur l'autoconfrontation. Et du coup là elle revisite, hein, et elle dit mais quoi je dicte encore. Mais elle dit mais maintenant je comprends finalement pourquoi ils sont silencieux. Ils écrivent et ils n'apprennent rien. Et Frédéric lui dit avance, ne te fais pas souffrir pour rien.
Et du coup là, je me suis rendu compte que finalement ils étaient bien indulgents, non, de continuer à m'écouter relativement. Mais alors moi, ça c'est un truc que j'ai tellement la faute du cours magistral, parce que pour moi les cours d'histoire, j'ai jamais aimé l'histoire à cause de ça, parce que j'ai toujours eu que des cours comme ça. Et j'ai un pas à essayer de rester concentré une heure comme ça. Et ça, c'est une phobie que j'ai. Alors moi, par contre, j'ai le problème inverse, c'est que tu vas voir tout à l'heure. C'est tellement, c'est la fin de ton dialogue, machin, qu'à un moment donné, la phrase écrite, bon, là, sur le cours de l'autre fois, c'était de la grammaire, mais oubliée, ça va, mais parfois, la phrase écrite, on l'a fait pour après, parce que je me suis fait emballer et qu'il n'y a plus rien. Du coup, j'ai rien dicté. Et puis, la gestion du temps, quand c'est parti dans un truc comme ça, moi, je merde complètement sur la gestion du temps, tu verras, la sortie de place, c'est quelque chose. Donc, non, mais c'est vrai. Alors, après, c'est un problème inverse.
Bon, là, on a sur ces derniers éléments un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, hein, sur la sortie de la classe. Hein, vous voyez, c'est d'ailleurs chez elle qu'on va noter les premiers points, puisque bon, globalement, elle a moins de problèmes de prise de classe que Guillemette. Et effectivement, systématiquement, elle déborde largement le cours et donc elle donne le travail à la fin de l'heure. Donc, c'est avec elle qu'on a commencé à se rendre compte d'un certain nombre de choses et d'une espèce de pratique. Hein, qui était présente dans cet établissement. Autre souci, c'était évidemment la trace écrite, qui reste un des soucis majeurs présents en tous les cas dans l'établissement, c'est-à-dire comment fait-on pour rendre visible ce qui s'est passé en classe et comment permet-on ensuite aux élèves de s'emparer du travail qui a été fait en classe pour aller le travailler ailleurs. Donc, est-ce qu'on est dans l'interaction? Est-ce qu'on est dans des résolutions de problèmes? Est-ce qu'on interagit? On a une classe vivante, mais du coup, les élèves partent chez eux sans rien. Et c'est d'autant plus difficile pour les élèves en grande difficulté de faire un travail de révision du contrôle ou d'apprentissage d'un certain nombre de règles. Ou est-ce qu'on se donne pour règle de conduite de laisser une trace écrite? Ce qui reposait la question, bien sûr, de la gestion du temps en classe, etc. Voilà. Donc là, on était sur ces questions-là et sur la possibilité collectivement, hein, de créer une espèce de règles communes, en tous les cas d'un collectif de travail qui se donnerait des règles de métier, en tous les cas dans ce collège, avec ces élèves-là et avec la possibilité que les enseignants se donnent. Des remarques peut-être là sur ce premier exemple. Alors, ce type de travail, par exemple, est rendu dans une autre étape. Hein. C'est rendu à un collectif, c'est-à-dire qu'ensuite, normalement, la quasi-totalité des membres de l'établissement, ainsi que, c'est pas toujours le cas, mais là, ça l'était, le principal adjoint et parfois les CPE quand bon, c'est un peu difficile hein, parce que quand les profs sont en stage, évidemment, les élèves n'étant pas tous chez eux, il faut que la vie scolaire continue de fonctionner. Mais quand c'est possible, on a également les CPE qui sont présents et qui peuvent d'une certaine manière bien sûr venir travailler dans la constitution de ce collectif de travail et se donner un certain nombre de règles du métier et revenir travailler sur ces questions-là. Donc là, il y a des extraits que je vous montre, mais qui ont été sélectionnés d'un commun accord avec, bien entendu, les enseignants hein, qui travaillent et l'équipe d'intervention. Donc ces extraits-là sont rendus au collectif élargi, c'est-à-dire à l'ensemble de l'équipe, et retravaillés sur donc les questions qui apparaissent. Alors bon, il n'y a pas que la question de la dictée, mais vous voyez, après, ça soulève des tas d'autres questions, hein, notamment de cette trace écrite, de la gestion du temps dans la classe. Ça soulève la question de la temporalité. Par exemple, les collègues se sont rendus compte que ce rapport au temps était une dimension qui était une dimension finalement très peu maîtrisée par les élèves en grande difficulté. Et eux, en tant qu'enseignants, c'était peut-être un élément dans leur manière de faire qui était peu présente. Donc, il leur semblait effectivement, en regardant le travail, qu'ils faisaient rarement allusion à cette variable et cette contrainte temporelle en disant « Bon, vous avez tel type de tâche à faire, je vous laisse 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. » Voilà, ça c'était laissé dans le flou. Et bon, il y a des choses après qui se disent sur ce genre de points. Sur la notion du vocabulaire flou, il y a bien sûr eu tout le travail de formulation. Et là, ça paraissait particulièrement intéressant parce que ça a été lancé par un prof de lettres, mais on s'est rendu compte que ça a mobilisé l'ensemble de l'équipe, évidemment, hein, tous les y compris les profs d'enseignement scientifique, mais aussi les profs d'art plastique, les profs de PS, et chacun a réfléchi, et chacun et tous à la fois, comment ils pouvaient justement... pallier cette difficulté qu'on voit un petit peu peut-être chez Sofiane, c'est-à-dire comment on pouvait amener les élèves à passer d'une espèce de vocabulaire un peu ordinaire, hein, de quotidien de tous les jours, à un vocabulaire plus affiné, un vocabulaire plus expert, propre à la discipline, c'est-à-dire là, par exemple, être de petits historiens ou de petits géographes ou de petits mathématiciens, et comment on nomme en mathématiques un segment, une droite, une demi-droite, bah, c'est pas la même chose. Et si on veut effectivement pouvoir distinguer des figures dans un lot de figures, il faut pouvoir avoir non pas que la terminologie juste, mais tout ce qui se rapporte derrière. Donc tout ce travail, vous voyez, de vocabulaire, de formulation et de comment les enseignants amènent ces élèves difficile et en difficulté à travailler ces questions de vocabulaire était notamment travaillé à travers ce vocabulaire flou qui leur a donné, évidemment, lorsqu'ils se voient et que Guillemette se rend compte qu'elle dit des choses sur le parti nazi ou sur d'autres leçons qui sont presque fausses, elle dit « mais je me rends compte que je suis en train de dire des choses fausses hein ». Voilà, ce qui a évidemment relancé aussi tout ce travail de réflexion. Oui, alors là je crois qu'il faut revenir sur des choses qui sont tout à l'heure Frédéric disait il y a l'organisation et qui est quelque chose qui est beaucoup plus exogène, et puis au niveau des prescriptions endogènes il y a également l'organisation que l'établissement se donne, et là aussi tout à l'heure un collègue disait quand on regarde fonctionner ces nouveaux dispositifs on voit de très grandes disparités. Effectivement, il y a de très grandes disparités d'un établissement à un autre. Dans le cas de ce collège marseillais, ce qu'il s'est passé au niveau de justement cette possibilité d'agréger les collègues, c'est que Frédéric a été intervenu plusieurs années auparavant dans un établissement scolaire du centre-ville de Marseille où, à ce moment-là, le principal adjoint est devenu le principal de l'établissement dans lequel nous sommes intervenus. Donc, il y a eu là une demande de formation au PAF, hein, au plan académique de formation, sur une question très très générale qui s'intitulait « Gestion de l'hétérogénéité ». parce que leur problème, leur semblait-il, c'était justement cette immense difficulté que chacun avait à gérer des rythmes différents, avec des motivations différentes et des élèves qui ne sont pas encore rentrés en classe quand d'autres ont déjà pris la consigne. Voilà. Donc en fait, lorsqu'on est arrivé dans cet établissement, cette question-là était d'abord une question de formation. Mais Olivier Briard, pour ne pas le citer, avait déjà travaillé selon une approche un petit peu ergonomique justement avec Fred, et il était assez favorable à ce type de travail dans son établissement. Donc je dirais qu'il a un petit peu enrôlé hein, son équipe, il a mobilisé les gens, il a parlé de tout cela. Et là, on avait de jeunes collègues qui avaient envie de réfléchir sur leur métier et qui pensaient aussi que le travail qu'ils faisaient était un vrai métier au sens où on pouvait se poser des questions et se poser des questions de manière collective. Donc les choses se sont mises en place assez rapidement quand même. Hein. Assez rapidement entre plusieurs collègues maths, français, histoire géo, SVT, italien, EPS. Donc on a commencé à travailler avec 6 ou 7 enseignants. Et très rapidement, au fur et à mesure qu'on avançait, et puis je crois notre présence constante dans l'établissement, en parallèle il y avait un travail qui se faisait sur les chefs d'établissement, c'est-à-dire où on essayait de comprendre un petit peu comment, dans un travail intercatégoriel, hein, quels étaient les effets que pouvait avoir, par exemple, un type de direction ou comment le principal adjoint pouvait travailler, quelles étaient leurs missions, mais également au niveau de la vie scolaire. Et puis, des étudiants respectifs hein, qui viennent aussi, qui prennent le collège comme milieu d'études, et donc des gens qui étaient au travail en permanence et qui ont accepté assez facilement ce travail-là. Bon. Ceci dit, là, on repart sur 2 autres établissements en collège ambition réussite, et a priori, oui, les enseignants sont assez nombreux, là, de nouveau, un établissement où il y a 10 de collègues qui souhaiteraient, effectivement, ce type d'intervention et de réflexion pendant plusieurs mois sur leurs pratiques. Mais l'intérêt, c'est aussi qu'ils aient peut-être quelques heures de manière à leur permettre de s'y retrouver dans les autoconfrontations, et parce que ça demande quand même un investissement de la part des enseignants, qui est quand même un investissement en temps, hein, très très important et très coûteux. Pourquoi cette question, Jacques ?
Parler de métier et donc forcément à plusieurs, tu vois, et un peu différents les uns des autres, tu vois, des points de discipline différents, des CPE. Ces situations-là, moi, je sais très très peu connu. Hein. Et voilà. Donc, mais c'est bien, si j'ai terminé, peut-être un jour, si je suis sage.
D'autres réactions ? Là, on a un exemple sur la question de l'aide, et peut-être qu'on pourrait regarder cet extrait-là. C'est probablement quelque chose qui vient un peu alimenter le débat qu'on avait juste avant le film, notamment au niveau de l'aide. Hein. Donc, à la fois, ça vient questionner les nouveaux dispositifs des élèves en difficulté, ça vient questionner la notion d'individualisation. Est-ce que en soi c'est aussi une aide, et est-ce que ça permet effectivement aux élèves de progresser? Et dans le cas de Guillemette, ce qui paraît assez intéressant, c'est l'idée qu'elle a de ce que devrait être l'aide et comment elle va amener, comment elle va apporter cette aide-là. Donc deux aspects, hein, l'aspect en autoconfrontation, et je vous montrerai les images par la suite.
Ça avance. L'inconvénient, c'est que dès que je suis à une table, ça me sert à mon plat, je vais à une table, ça.
donc là, tu es plutôt dans la vérification du travail.
Vérification et aide. D'accord. Donc, avec le questionnement, leur reformer la question, mais si tu trouves par eux-mêmes.
Et tu leur laisses combien de temps, par exemple, pour faire l'exercice?
Si on prend ta phase call, ça doit faire un petit peu. Mais ce qui est trop court, puisqu'en relisant le programme nazi, moi, il y a des tas de choses qui me reviennent, je comprends. Mais oui. Vous avez bientôt sonné, là ? Oui, dans le mot, oui, c'est bon.
Bientôt sonné, oui.
Vous reviendrez.
Je reste.
Tu vois, quand tu verras ça.
Donc là, par exemple, elle a travaillé, elle a fait quelque chose.
Ouais, c'est un peu. Ça, c'est. Oui, mais sur le compte du chômage, c'est des fois obtenu par une analyse, c'était similaire. C'est évident. Non, similaire, déjà, ça se tient. C'est vrai que maintenant, je pense un peu plus souvent au vocabulaire. Est-ce qu'il n'y a pas un point de vocabulaire? Parce que toutes ces petites choses où les élèves butent, sont anticipées.
Alors, donc là sur la question de l'aide, effectivement, elle dit qu'elle va passer là d'un bureau à un autre pour essayer d'aider les élèves individuellement. Bon, des mots de vocabulaire. Quel est le mot qu'elle a eu ? J'ai pas entendu. Voilà, similaire. Hein. Donc elle dit similaire. Bon, c'est un mot qu'il maîtrise pas. Bon, c'est ce que lui dit Fred. Donc c'est avec cette classe qui a eu quelques problèmes d'entrée, qu'elle a fait ressortir, qu'elle a maintenu debout. Bon, ensuite les élèves sont au travail, on est sur les zones de peuplement en France. Elle a donné une question. Cette question, les élèves de 6e ont passé beaucoup de temps à découper la petite question, à la coller du bon côté sur le cahier, et maintenant ils doivent répondre à cette question. Et là, pour aider les élèves, elle va donc passer d'une table à une autre. Donc elle a commencé par cette rangée-là, et puis au fur et à mesure, elle suit. Et donc là, j'ai sélectionné l'extrait où elle arrive presque à la fin. Donc il s'est écoulé une quarantaine de minutes hein, dans le passage. Et l'élève qui est devant va l'interpeller, puisque finalement, il a fini par se mettre au travail parce qu'il avait l'air de s'ennuyer un petit peu. Il s'est mis au travail et évidemment, en se mettant au travail, il a des questions. Il comprend pas un certain nombre de choses et donc là il lui demande d'intervenir et donc c'est ce passage là qu'on a sélectionné.
Thank you.
On n'entend pas ce qu'elle dit, mais en fait... Voilà, comment tu commences la phrase? En fait, les deux élèves, là, n'ont pas encore commencé l'exercice. Ils n'ont pas encore commencé l'exercice, donc, bon, voilà, comment tu commences la phrase? Et donc, c'est ce que je vous disais, il y a un temps important hein, qui s'est écoulé. Voilà, et on était à la fin de la classe. Donc, bon... Je crois que dans la question, là, tout à l'heure, on parlait de santé et de fatigue. Je crois qu'ici, un exemple, j'oserais pas dire un bel exemple, mais de fatigue, hein. On voit bien qu'elle est terriblement marquée physiquement. Et d'ailleurs, on était à peu près à la fin du trimestre, hein, je crois. Bon. Elle a envisagé à ce moment-là de s'arrêter. De s'arrêter et de démissionner de l'enseignement. Bon, ça c'est un premier point. L'intérêt qu'on a eu à travailler cette séance, c'était peut-être de redéfinir avec elle la question de l'aide et ce que finalement dans cet établissement on comprenait en termes d'aide des élèves. Qu'est-ce que ça voulait dire aider les élèves? Qu'est-ce que ça veut dire pédagogie différenciée? Qu'est-ce que c'était gestion de l'hétérogénéité puisque c'était une de leurs questions, hein? Est-ce qu'on était sur des tâches différentes? Est-ce qu'on était sur une même tâche? Est-ce que le prof pouvait s'autoriser à étayer les élèves de manière un peu différente selon justement leur degré d'éloignement vis-à-vis de la tâche et leurs difficultés? Ça c'était un point. L'autre point, on voit bien ici que il y a chez elle l'idée qu'elle doit absolument aller apporter une aide à tous les élèves de la classe et de manière individuelle. Et où il y a un véritable épuisement, puisque bon, mais non seulement c'est très chronophage, hein, ça lui prend beaucoup de temps, elle s'y épuise et ça paraît pour le coup peu efficace, hein, pour reprendre les termes de ce matin. L'efficacité, à la fois pour elle et pour les élèves, est quand même est assez réduite, évidemment. Quand on discute avec Guillemette, ce qui est sous-jacent, c'est l'idée que effectivement, dans l'idée du socioconstructivisme, alors hein, elle reprend ces termes-là puisqu'elle sort de l'IUFM, les élèves doivent être tout seuls, découvrir par eux-mêmes un certain nombre de réponses, et elle est bien dans cette idée qu'en aucun cas, elle doit pouvoir s'autoriser à faire un cours, parce que le cours magistral est complètement à rejeter et banni de son enseignement. Les élèves doivent découvrir par eux-mêmes, et comme elle doit apporter une aide aux élèves, elle assume cette position, et en tous les cas, ce qu'elle comprend de cette exigence et de cette prescription en passant d'un élève à un autre. Hein? Alors, bon, peut-être que demain on en reparlera sur les manières de développer et de réfléchir sur son métier, sur la manière de prendre la classe, mais si on pouvait regarder, par exemple, 3 ans après, on voit comment cette même enseignante, par exemple, tente de mettre des élèves en groupe et des groupes qui sont des groupes différents dans le sens où elle va constituer dans sa classe 3 groupes. Un groupe qui est en totale autonomie parce que c'est de son point de vue par rapport au travail qu'ils ont fait, des élèves qui, bon an, mal an, peuvent aller un petit peu plus loin dans la tâche. Ensuite, un groupe qui est en autonomie, en tous les cas, une autonomie moins importante où ils vont travailler à plusieurs pour essayer de trouver une réponse collective. Et puis, un groupe d'élèves qui est en plus grande difficulté et qu'elle va réunir devant elle et avec lesquels elle va interagir pendant un bon moment sur les 2 heures qu'elle a de cours. Et progressivement, donc, on la voit effectivement. Alors bon, ce passage-là n'est pas un passage facile. Hein. Pendant très longtemps, elle tient sa classe et elle ne les laisse pas travailler tout seul. Mais au fur et à mesure que le temps se déroule, on voit bien comment progressivement elle va s'éloigner du début de la classe pour revenir se centrer sur ce groupe avec lequel elle est supposée travailler en accompagnement et en groupe aidé. Et progressivement également, elle baisse le son de sa voix de manière à pouvoir interagir qu'avec ce groupe-là et non pas de manière collective comme elle le fait au début. C'est-à-dire qu'au début, elle a constitué des groupes, 2 groupes qui sont supposés travailler en autonomie. Hein, et en fait, elle continue de parler et de s'adresser à l'ensemble de la classe. Donc, dans ce travail-là, l'idée, c'était aussi de voir comment, à travers ce dispositif, finalement, et le temps long passé dans une relation entre chercheurs et équipe, comment les enseignants arrivaient à reprendre du pouvoir d'agir, à reprendre la main sur la classe. Bon, c'est pas évidemment quelque chose qui est construit une fois pour toutes. Hein, et alors tout à l'heure tu parlais d'idéal. Bon, moi j'aurais envie de dire il n'y a pas de miracle non plus. C'est-à-dire que d'un coup on passe pas d'une situation difficile à quelque chose de merveilleux dans le plus beau des mondes. Bon, évidemment il y a des difficultés qui persistent, qui demeurent, des nouvelles qui apparaissent. A priori ce collège qui est en EP2, bon. Connaît ces quelques jours-là des difficultés majeures, ils se sont mis en grève, bon, il y a eu des mouvements importants là sur Marseille, sur cet établissement-là, donc il semblerait de nouveau qu'ils traversent de nouvelles difficultés de gestion des élèves et de la mise en ordre des élèves. Mais bon, il y a un travail qui se fait, qui avance et qui a, semble-t-il, permis à un certain nombre de collègues d'engager ce travail de réflexion sur leur métier et bon, dans la prise et le faire de la classe. C'est coûteux. Des réactions avant la pause ?